trees are green.
Please evacuate this building. Please evacuate this building.
What a mess for you.
Il faut se retirer les doigts du nez. Oui, c'est obligatoire.
Ouais, on est bon. Ça m'écoute là-bas ou pas?
Eh hey, oh!
Voix en expansion. Un magazine pour discuter, échanger.
Informer, dénoncer.
Sensibiliser, balancer.
Et mémoriser.
C'est qui d'après vous?
Voix en expansion.
Attention, les voix s'étendent,
s'épandent et s'accroissent,
se développent, augmentent,
se diffusent et se propagent sur le web,
sur les ondes et dans l'espace. Attention, voix.
Voix en expansion.
Un magazine autoconstruit par l'association La Malle aux Libertés.
Ouh, ça c'est de l'information. C'est clair, c'est précis. Je vous tire son chapeau, madame.
Bonjour Bernard.
Eh bien, bonjour Annette.
Et voilà une nouvelle émission de Voix en expansion.
Ah oui, et les voix en expansion, malgré les masques, eh bien, on est là et on ouvre des fenêtres pour s'échapper. Alors cette fois-ci, on va s'échapper très loin, Annette.
Très loin. Alors déjà, on a installé notre petit studio dans une éco-hutte de basse nature. Et on a la chance pour cette émission d'avoir un invité exceptionnel,
ah oui, hein,
une fois de plus.
Une fois de plus, je sais pas, il y en a partout. De toute façon, tout le monde est exceptionnel. Hein. Tout le monde est unique. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette possibilité de vous retransmettre et d'expandre, et d'expansion, je vais du bal, d'expansion des voix. Malgré les baillons.
Qui permettent de partager pour tous. Donc cet invité exceptionnel, Sébastien Roubinet.
Alors là, si vous voulez de l'aventure, si vous voulez avoir du grand air, si vous avez marre d'être confiné, parce que je pense que ça va aussi revenir, nous sommes en 2021, mais nous avons toujours espoir sur les grands espaces. L'espèce humaine est exceptionnelle. Sur les glaces, ça n'est
navigateur du Grand Nord.
Ouais, de navigateur de partout, toutes les mers. Alors, il se complique parce qu'on verra qu'il met des glaces en plus. Mais voilà. Eh bien, nickel. Alors, bonjour Sébastien.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs?
Me présenter, je suis marin.
Oui.
J'habite dans le Vercors.
D'accord. Il y a eu la mer ici.
Il y a eu la mer il y a longtemps. Ouais. Non, mais la plupart du temps, en fait, j'ai passé beaucoup de temps sur la mer. Là, depuis un an, je suis à Vassieux pour je ne sais pas encore combien de temps. Ouais. Et je fais beaucoup d'expéditions polaires, donc en Arctique, au Groenland, voilà, surtout.
Bon, ça t'a pris comment d'être marin? T'étais d'où au départ, juste pour tous nos amis qui sont aussi un petit peu marins, mais rapides, c'est des kiteurs. Là, voilà.
Je suis des Cévennes, donc
ouais,
en haut de la voile. Mais je suis parti, j'ai quitté chez moi, j'avais 13 ans. Et à 14 ans, j'ai fait ma première traversée atlantique avec une association qui parlait des jeunes. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du convoyage, qui m'a proposé de refaire une deuxième traversée. Puis de l'Atlantique. Après, j'ai travaillé dans les Antilles sur les bateaux de charter. Puis le Pacifique, l'océan Indien. Et après, ça s'est enchaîné de 15 à 30 ans. J'étais 300 jours par an sur l'eau.
D'accord. Donc quand tu es sur Terre, ça balançait tout le temps. Tu étais toujours sur... quand tu es sur Terre, ce n'était pas ton milieu. Quand tu avais le pied tout le temps comme ça pendant 300 jours. C'est difficile pour nous, les gens du Vercors, d'imaginer ça. Annette, t'aimes bien, toi, non?
De quoi? La mer? La
ouais.
Voile?
Non, quand ça balance.
Ouf. J'y passe peut-être un peu plus de temps pour pour pas avoir juste le mal de mer.
Ouais. Et là sur le Vercors, donc avec toutes ces aventures, donc de droite et de gauche, on imagine un peu le globe et tu circulais comme ça.
Oui, je passais d'un bateau à l'autre, d'une traversée de l'Atlantique, le Pacifique, l'Indien, un petit peu partout. Et voilà, c'était mon boulot et ma passion, quoi, ouais. De mélanger.
D'accord. Et après, petit à petit, donc, tu t'es formé, donc, parce que tu étais jeune, donc tu
tu étais plutôt dans le cadre de... Je sais pas comment ça marche dans la mer, en fait. Moi, j'y connais rien du tout. Hein. Et il y a pas mal d'auditeurs qui connaissent rien du tout.
Donc, la première traversée, c'était donc avec cette association. La deuxième, c'était un convoyage. Donc, avec un skipper, on a amené un bateau de France vers les Antilles. Après, dans les Antilles, j'ai travaillé sur les bateaux de charter. Donc, amener des touristes et faire du convoyage aussi en même temps. Là, il y a un bateau de propriétaire. C'était un bateau de 27 mètres où on était 5 d'équipage et le propriétaire venait presque jamais sur le bateau.
Il nous disait, c'est bien d'avoir un bateau comme ça.
Ouais, il nous disait il faut être que le bateau soit à tel endroit, à telle période, et entre-temps, faites-vous plaisir. Voilà. Oh. Et payer pour ça. Il n'y a pas beaucoup d'écoutes comme ça. Et donc, avec ce bateau dans le Pacifique, Panama, les Galapagos, les Marquises. Et en plus, c'était à 30 ans, donc c'était assez libre quand même. Par rapport à maintenant, les Galapagos, ça devient compliqué, par exemple. Mais là, c'était top.
On est en train de déplier le cadeau et je vois les yeux des enfants qui s'allument.
Ah bah puis ça fait vite rêver quand même. et cette passion, après du coup tu t'es formé.
Oui, du moins.
Tu as appris sur le tas.
Sur le tas, oui. Sur le tas. Après, le peu de temps que je passais à terre, c'était souvent dans les chantiers pour apprendre à construire les bateaux. Puis j'ai voulu faire de la course, donc je me suis construit un bateau un mini transat, c'est un bateau de 6,50 m pour faire la traversée atlantique en solitaire. Et pas mal d'autres courses. Donc j'avais fait deux saisons avec ce bateau-là et en même temps je courais sur d'autres bateaux de course, plus gros, des plus petits, un peu de tout. Et pour la mini transat, malheureusement, j'avais pas beaucoup de budget, pour dire presque rien. En fait, j'ai fait le podium sur toutes les courses avant saison, mais sur la mini, j'étais en train de doubler celui qui a gagné. Et là, j'ai dématé à 800 000 de l'arrivée. Donc j'ai remis un premier gréement de fortune avec lequel j'ai rejoint les îles de Fernando de Noronha. Là j'ai remis le plus grand morceau de mât que j'avais qui faisait 7,50 m au lieu de 11 m. Je suis reparti. La nuit suivante j'ai redoublé 4 bateaux et j'ai fait le meilleur temps sur 24 heures de toute la flotte. Et à 90 000 de l'arrivée j'avais redoublé pas mal de bateaux et là j'ai redématé. Juste au vent de la côte, donc j'étais pas loin de finir dans les cailloux. Donc j'ai remis un mât très très rapidement de 4,50 m. C'était le tube le plus grand qui me restait. Et j'ai fini comme ça. Et j'ai fait 21e sur 75 bateaux. Donc c'était pas trop mal, mais.
Bah, bravo plutôt, on veut dire. Ouais.
On va applaudir, moi je sais pas. Moi, ouais.
Et là j'ai arrêté de faire de la course à ce moment-là. J'ai embarqué sur Tara. Donc l'ancien bateau de Jean-Louis Etienne, qui s'appelait Antarctica à l'époque, pour comme second capitaine, pour d'abord une expédition, d'abord un gros chantier sur le bateau, puis une expédition au Groenland. Et Tara, c'est un super bateau, mais on est 20 d'équipe, du moins 20 dans l'équipe. Quand on est second capitaine, on s'occupe tellement de la technique et tout ça qu'on ne voit pas ce qui se passe dehors. Moi, il y a des endroits où on est allé, je les vois en photo, mais je ne les ai pas vus en vrai, alors que j'étais sur le bateau. Et donc après ça, j'ai rencontré Anne-Lise, ma femme, sur ce voyage-là avec Tara. Et après, on a monté une expédition, donc faire le passage du Nord-Ouest avec un bateau un peu le contraire de Tara, le plus simple possible. Pas beaucoup d'équipage, le seul matériel qu'on avait, c'était un GPS, mais sinon, il n'y avait rien d'autre. Et uniquement à la voile.
Alors, parce que ça fait, à chaque fois qu'on te rencontre, on entend « passage du Nord-Ouest ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce passage du Nord-Ouest ?
Le passage du Nord-Ouest, c'est rejoindre l'Atlantique au Pacifique en passant au nord de l'Alaska et au nord du Canada.
Attention, tout le monde met sa carte. Au nord de l'Alaska et au nord du Canada. Donc, comme
passer
ça.
Au nord de l'Amérique du Nord, dans un D'accord. sens ou dans l'autre, d'ailleurs.
D'accord, ouais. Voilà.
Et quand on l'a fait, nous, on était le 24e bateau à l'avoir fait. Et le seul voilier encore aujourd'hui à l'avoir fait sans moteur.
D'accord.
C'est-à-dire uniquement à la voile, sans aucun moteur sur le bateau. Donc à la voile, quand il n'y a pas de vent, on rame.
Ça, c'est l'expédition de 2007 ?
Ça, c'était en 2007, oui.
D'accord. Ouais. Avec Babouchka ?
Avec Babouche.
Babouche, oui. Ouais. Ouais. D'accord.
Et ça a duré 4 mois et demi. Et j'ai eu 3 équipiers qui se sont relayés, chacun pendant un mois et demi.
Il n'y en a qu'un seul qui est resté à bord, toujours le même.
Je les ai bien fatigués, après je change.
Ouais, d'accord. C'est la cause de la douche, je crois. Bon, alors, je crois que c'est quand même super chouette que tu sois là et on te remercie vraiment parce que ça nous fait un très beau cadeau de Noël. Mais en attendant, ça nous ouvre l'esprit. Alors, bien sûr, Annette, elle disait, ça, on a tout de suite des belles images. On a, ouais, là, la mer, le soleil et tout, mais c'est pas toujours ça, non. C'est pas la Méditerranée, la Sète, pas la Basse. C'est pas comme ça tout le temps, non.
Non, mer, il y a des super moments. Il y a des moments aussi beaucoup plus durs. Hein. J'ai perdu... Moi, deux fois, j'ai été récupéré quand même en mer. Une fois, je me suis récupéré par moi-même. C'est-à-dire, je suis passé à l'eau, mais j'ai réussi à remonter au milieu d'une grosse tempête. Mais ouais, c'est pas toujours, toujours simple, mais c'est... Les côtés durs compensent largement... les beaux côtés compensent largement les côtés durs. Et la tempête, du moins les grosses tempêtes, c'est magnifique. Une tempête plus grosse que j'ai eue, on avait le maximum qu'on a enregistré dans le devant, c'était 94 nœuds, et donc 180 km/h. Après, on ne sait pas parce que le mât il a tapé tellement souvent dans l'eau que la girouette elle a explosé.
Attends, je comprends pas bien. Le mât tape dans l'eau. Pourquoi?
Parce que les vagues, on pense qu'on avait une vingtaine de mètres de vagues, de creux.
Mais c'est un sous-marin, vous aviez. Parce qu'en fait, les vagues, elles passent.
C'était un bateau de 15 mètres, un bateau de course. Et on était dans un ouragan. Mais voilà, il y a un moment.
Alors, qu'est-ce qui se passe là, dans ces moments-là? Comment ça, pour nous, les communs des mortels, vous faites quoi?
En fait, donc, pour revenir un petit peu en arrière.
Ouais.
Déjà, c'était un bateau, normalement, j'aurais pas dû être dessus. J'ai embarqué 3 jours avant le départ parce que j'avais une copine sur le bateau qui m'a dit « Tu veux pas venir avec nous ?» Voilà, donc finalement, je suis parti sur ce bateau. L'équipage n'était pas très compétent et le skipper propriétaire n'avait pas du tout l'habitude de ce genre de bateau. Donc, assez rapidement, je me suis retrouvé à skipper le bateau. C'était pas prévu. Et là, en arrivant vers les Açores, à 24 heures des Açores, la météo annonçait des super conditions pour finir assez musclé, mais au portant, normalement, 24 heures après, on était arrivé. Et le soir, le vent commence à arriver de face, ce qui n'était pas du tout prévu, et forcir. Vers minuit, on avait 60 nœuds de vent, donc ça commençait à être violent. Donc on finit d'affaler à grand voile, on se dit, mais la météo ne l'annonçait pas, donc c'est que ça va passer. Donc
on ne peut pas se fier tout le temps sur l'électronique, on va...
Non,
la preuve.
Et de plus en plus, mais là à l'époque c'était encore on recevait ça par fax, la météo, ouais. Et c'était pas une super météo, pas très précise, et il suffisait de rater un fax et on avait une météo un peu vieille. Voilà, ça arrivait un peu souvent ça. Là on en avait raté 2-3, ça faisait au moins 2 jours qu'on n'avait pas de bonne météo. Et là le vent a commencé à forcir. Au petit matin on avait 80 nœuds, donc. On a commencé à mettre des traînards, laisser le bateau portant dans la partir. Mais
des traînards, c'est des...
C'est en fait, on largue des trucs derrière qu'on attache derrière le bateau.
Ouais.
Là, on avait une voile, on avait de la chaîne, on avait une ancre.
Pour continuer à avancer quand même.
Oui, en fait, on n'avait plus de pilote automatique. Dehors, c'était trop dangereux d'y rester. Donc, les traînards permettent que le bateau il continue à faire aller dans la direction qu'on veut, à peu près, sans se mettre travers à la vague.
D'accord.
Parce que quand on se met travers, c'est là où le bateau
se fait
coucher.
Donc quand on met les traînards, là, on peut se dire, ça y est, ça commence un peu.
Normalement, c'est que ça commence à être violent.
Et alors, dans la cabine, vous êtes tous dans la cabine, là, vous êtes 5
Ouais, mais on était 4.
4.
Et là, à l'intérieur, en fait, le bateau, c'est un bateau, il n'y a aucun aménagement, c'est un bateau de course. Et ça fait 5 mètres de large, donc quand le bateau se couche, il se couchait une fois d'un côté, une fois de l'autre, donc on ne pouvait pas vraiment savoir, donc il y avait un risque de chute important.
Donc, tu t'attaches.
Donc on s'était fabriqué une petite cage avec des cordages. On s'était fabriqué une petite cage pour pouvoir se tenir dans la cage. C'est un peu particulier, mais bon, l'ambiance est restée plutôt bonne en fait tout le
temps. Ah
oui. Ouais.
D'accord, l'ambiance reste bonne.
Oui, c'est important.
Mais bien sûr, c'est important. Après, c'est difficile à imaginer quand même. Là, les pieds sur terre, effectivement, on se dit waouh, mais enfin, moi je crois que je serais terrorisée. Ben, ici, enfin voilà, il y a Jean-Louis Tillia qui ont traversé l'Atlantique une fois. Quand vous entendez ça, vous dites waouh, non?
Alors, profitez si vous aviez quelques questions. Si vous avez quelques questions, allez-y, n'hésitez pas.
Bon, là, on s'est tous accrochés à la cage.
Voilà.
Allons-y, on fait passer. Oui.
Ouais. Bonsoir. Je voulais savoir, non, justement, parce qu'il y en a plusieurs voilà, qui rêvent de partir en grande mer. Et moi, ça me fait peur, effectivement. Je me dis, est-ce qu'on peut fermer le bateau, se mettre en mode sous-marin, ou est-ce qu'en ayant checké vraiment les prévisions, on peut passer à côté de tout ça? Enfin, j'imagine, il y a beaucoup de formations à avoir dessus, d'expérience. Ouais,
en mer, en fait, déjà, là, ça m'est arrivé, ça faisait plus de 15 ans que je naviguais avant de prendre ma première grosse tempête. Et c'était pas la bonne saison, on le savait. C'était un bateau du Bock Challenge, la course autour du monde en solitaire avec escale. Donc un bateau fait pour le gros temps. Donc c'est pour ça qu'on y est quand même allé. Malheureusement, le temps était fort, vraiment très fort, et on était au mauvais endroit. Mais et à la mauvaise période. C'est-à-dire qu'à environ 300 000 des Açores, de 300 000, le fond remonte très très vite et la mer devient énorme. Mais normalement, à cette période-là, on traîne pas trop dans ce coin-là.
Voilà. Vous avez cherché un peu, quoi, quand même.
Oui, d'ailleurs, moi, j'avais. Au départ, j'avais proposé qu'on rentre plus tard. Mais le bateau devait rentrer en chantier derrière. Voilà, donc c'était pour ça qu'on est rentré si tôt en saison.
Beaucoup de contraintes, quoi. Si on veut le faire vraiment safe, il faut y aller avec.
Mais en faisant attention aux périodes et tout ça, oui, il y a moyen de ne pas prendre de risques.
Non, parce que finalement, je vous m'étais dit. Moi, je m'étais dit, du coup, on peut faire que de la côte et tout. Non, mais la côte, c'est pas.
Mais la côte, c'est dangereux. Hein, ouais. Dire le. Oui, en fait, donc on est au large, la plupart du temps, on peut chavirer, hein, mais la plupart du temps, ça va. Et c'est quand on approche la côte où on est limité, on ne peut pas partir en fuite, par exemple, on ne peut pas partir vent arrière pour fuir le mauvais temps. Souvent, eh bien, il y a un côté qui est bloqué parce qu'il n'y a pas la place, il y a la côte. On ne peut pas toujours rentrer dans les ports. Donc la côte, ça peut être le danger. Ouais. Ou sinon, il faut rester vraiment côtier-côtier, bien suivre la météo et s'abriter dès qu'il y a du temps moyen. Mais bon, il y a un bout d'un moment, on navigue plus sinon.
Okay. Bon, les montagnards, là.
Moi, ça me fait penser au parapente.
Ah bon? Bah après du relief, enfin.
Pensez au parapente.
Bah à moins de 200-300 mètres sol, t'es pas trop sécurisé. Plus t'es haut, plus t'as le temps de voir venir les choses et plus t'es tranquille.
Oui, bah, oui, c'est. Après, non, c'est sûr. C'est mais c'est un peu aussi comme le parapente, parce que le parapente, si on fait attention, qu'on vole que dans des super exactement, conditions, oui, on prend sûr. Pas de risque et au bout d'un moment, on prend de l'expérience et on se dit, oh ben non, là ça va passer. Et. Voilà, souvent ça passe.
Ça, souvent ça passe, à chaque fois.
Voilà, c'est trouver la limite.
Ouais.
Moi, je continue.
Alors, Anouk, est-ce que toi, évidemment, t'es monté sur le bateau plusieurs fois? Tu traverses, tu viens en avion quand tu suis ton papa? Comment ça se passe, en fait? Hein? T'as déjà traversé? T'as déjà fait une des grandes traversées?
Bah, je suis allée de Bretagne au Groenland. Et sinon, on est allé aux Açores, mais j'ai pas tout fait toute la traversée parce qu'après ils sont allés jusqu'au Canada, je crois. Et enfin j'ai fait ça. Après j'ai fait d'autres trucs, mais et sinon après j'accompagne papa quand il va faire des expés et du coup on y va en avion. Ouais. Et après on traverse l'Alaska.
C'est sympa? T'aimes bien?
Oui.
Ok. Est-ce que toi, donc t'as une petite place? Parce que nous, tu sais, on est des gens de la montagne. Moi, je suis monté une fois, comme ça. Quand tu traverses comme ça, t'as une petite place pour dormir, une petite chambre? Comment ça marche?
Oui, j'ai une petite chambre. Enfin, petite.
Ouais.
Une couchette.
D'accord. Et maman n'est pas là parce qu'elle fait autre chose, c'est ça? Parce qu'elle a fait des expéditions avec toi, hein? D'après ce que j'ai suivi, là, c'est qu'en fait, les gens qui tournent autour du monde ramènent de la cuisine du Vercors. C'est
oui. Ça oui, oui.
Incroyable. Ils ont du pain de Cécile, peut-être?
Non, ils n'ont pas le pain de Cécile.
Ah, ils n'ont pas le pain de Cécile.
Non. Mais ils auraient pu. Non, elle prépare, elle fait de la nourriture déshydratée pour, entre autres, là, il y a 4 bateaux du Vendée Globe qui ont sa nourriture. Dont un qui est deuxième ou troisième aujourd'hui.
Donc la nourriture est bonne.
La nourriture est bonne. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont cette nourriture ont bien la forme ces temps-ci. Au bout d'un mois, ils sont en train de remonter, ils ont bien la pêche, donc c'est bon signe.
Ah, d'accord. Alors ça se compose comment, un menu de marin, j'allais dire, en course?
En course, du moins. Là, elle a fait juste un plat par jour, pour le bateau. Et ces plats, c'est des plats cuisinés. Et ça peut être plein de choses et des choses différentes entre sous les tropiques où il faut plutôt des aliments qui refroidissent. Et dans le sud où on cherche au contraire à se réchauffer, où on a beaucoup de besoin de beaucoup d'énergie parce que les manœuvres sont beaucoup plus physiques quand il y a du vent fort. Et mais ça peut être n'importe quel plat préparé.
Donc là, ils sont autour du monde. Par contre, ils mettent la casserole sur un feu, ils peuvent aller s'occuper, gréer le bateau. Enfin, ils peuvent.
En fait, ils ont une gamelle isotherme. Ils mettent la nourriture dedans, de l'eau bouillante. Et environ trois quarts d'heure après, le repas est prêt. Et les repas sont à peu près quasiment les mêmes. C'est dur de voir la différence entre quand il sort de la casserole ici.
D'accord.
Et déshydraté et rehydraté.
Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut manger ?
Par exemple, il y a un super curry d'agneau, qui est vraiment une bonne curry.
Servi en salle.
Mais ça se déshydrate. C'est assez long, il faut mettre en couche fine. Mais même la sauce arrive à se déshydrater comme il faut.
En couche fine sur une plaque.
Sur des plaques. Et après, c'est en température positive. Donc le curry, il est un petit peu chaud. Ça doit être dans les 45 degrés à peu près. Et ça met entre 36 et 48 heures à déshydrater.
Bon, alors déjà, on peut avoir une couchette. On peut bien manger. On peut se faire une petite cage quand ça commence à basculer de droite et gauche.
Voilà. Et sur cette nourriture, en fait... C'est sur mes expés qu'on a fait les premiers tests. Ouais. Et les tests donc en Arctique en 2011 et 2013, j'étais avec de la nourriture lyophilisée. Et à chaque retour d'expé, ben, c'était entre 5 et 10 kilos de perdu. Donc,
il y en a qui devraient faire d'aller à l'Arctique.
Et des gelures, de la fatigue, tout ça. Et là, la dernière fois, donc, c'était de la nourriture déshydratée. Et on n'a pas perdu de poids. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu 1 kilo. Vincent est resté stable, on était 3. Et Eric a pris 3 kilos.
Ah, d'accord. Ouais. Il avait le droit à 2 portions.
Non, et on n'a eu aucune gelure, alors que d'habitude, je mets entre 2 et 3 mois à reprendre la sensibilité dans les pieds. Et bien, là, nickel, je suis rentré.
As-tu 2 ou 3 mois ?
Ouais.
Des engelures, des gelures ?
Ouais, mais en fait, c'est ce que les médecins appellent ça les gelures des tranchées. C'est qu'on n'a jamais un moment où on se réchauffe à nouveau. On est pendant 2-3 mois, c'est tout le temps très proche du zéro, à part dans le duvet. Et donc, petit à petit, ça mange la peau, et après, ça mange les chairs dessous. Et avec la bonne nourriture, et aussi des bonnes crèmes qu'a fait une amie. Une crème réchauffante du matin et une crème pour soigner du soir.
Alors, eux, ils ont ça en février dans leurs chaussures de ski.
Oui, mais ils rentrent le soir et ils sont chauds.
Ouais, et alors, ça gonfle, ça
ou
fait
sinon,
des
sinon, c'est quelques jours, mais quand ça dure vraiment très longtemps sans se réchauffer, mais là, c'est là où ça pose souci.
D'accord. Et parce que là, par exemple, dans le petit film, le dernier film que tu as fait, là, donc cette traversée, enfin, je pense que c'est souvent régulier, c'est dans je ne sais pas si c'est le pack, je ne sais pas comment ça s'appelle, où on voit, vous avez souvent bon, vous tirez le bateau, le pied, ils sont dans l'humidité, dans l'eau. Donc vous avez du matériel super étanche, mais le pied ne respire pas, quoi.
Oui, on a du matériel étanche, mais le problème, c'est qu'on sue quand même. Ouais. Et toute la sueur, eh ben, elle descend et elle va au niveau des pieds. Alors on change de chaussette environ 3 fois par jour. C'est-à-dire on change la chaussette, mais celle qu'on enlève, on la met contre nous pour la faire sécher, parce que sinon elle ne sèche pas. Mais ça permet d'arriver à sécher un petit peu les pieds. Et après, les dernières années, on a des bonnes combinaisons qu'on arrive à ouvrir très très facilement et fermer, donc à faire partir un petit peu l'humidité qu'on a au niveau du corps.
Oui. Alors le dernier bateau là, qui est parti, cette traversée, il n'y a pas du tout de place en fait, pour nos auditeurs. Là. Tu peux le décrire comment on est ? Donc, c'est
Oui, c'est un petit catamaran de 7 mètres. Qui est très très léger, qui fait 200 kilos, prêt à naviguer. Et la partie habitable fait 2 mètres par 2. Et on est 3 à bord. Voilà, donc c'est un bateau... les deux autres n'étaient pas vraiment petits. Donc c'est très très spartiate, mais en fait on s'est senti bien. Il y a des coups, on est resté coincé 48 heures d'affilée à l'intérieur, mais on n'a jamais été vraiment gêné par ça. Et l'avantage, c'est qu'il est vraiment très léger, donc on arrive à naviguer sur l'eau, mais aussi sur la glace. Et il ne craint pas la glace, malgré la coque très fine qui fait moins d'un millimètre d'épaisseur. mais on peut taper dessus, elle se déforme et elle reprend sa forme.
Alors, je pense qu'il y aura des questions techniques, là, un petit peu.
La coque, elle est en Inegra basalte. C'est des nouveaux matériaux qui remplacent le Kevlar. On en trouve, du moins, on en trouve en Europe que depuis un an, mais c'est un ami au Québec qui a mis ça au point. Et donc, moi, ça fait 10 ans que je construis des bateaux avec ça. Et c'est, par rapport au Kevlar, on sait 2 fois plus résistant à l'impact pour un même poids.
Kevlar, carbone, c'est pas pareil.
Non, le Kevlar, c'est plus pour l'impact, et le carbone, plus pour tout ce qui demande des grosses résistances à la traction ou à la compression. Mais le carbone, à l'impact, c'est nul. Ça supporte pas du tout les impacts. Ah.
D'accord. Et là, ta chemine, donc le bateau, il a été construit où, par exemple ?
Le bateau, ben, le dernier, a été construit en Bretagne. Hein, c'est...
D'accord. Donc, il faut tout acheminer jusqu'à je sais pas où, en Alaska.
Il a une taille pour pouvoir rentrer dans un conteneur et être au gabarit routier. Donc on l'a envoyé en conteneur jusqu'à Montréal. Et après, on a traversé le Canada et l'Alaska pour aller jusqu'au nord de l'Alaska pour le départ.
Ok. Quelle organisation.
Par rapport aux voiles, c'est quand même lourd. Sur le bateau, vous avez fait comment pour avoir différentes voiles?
Sur le bateau, on a 3 ou 4 voiles. On a 4 voiles. Donc on a une grand voile, un spi, un Jenneker et un petit génois. Mais les voiles sont très très légères. En fait, jusque-là, les précédentes expés, c'était avec des tissus assez lourds. Mais là, il y a une boîte qui m'a fait des tissus spécialement pour ce bateau. Il est très résistant et très léger. J'ai réduit d'un moitié du poids. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une 40aine de kilos. Là, il y a 20 kilos de voile à peu près.
Que nous, on était sur un petit bateau de 9,5 mètres aussi, et c'était plus proche des 3 tonnes que des 200 kilos. Enfin, c'était un quillard, mais...
Oui, mais c'est très 200 léger.
200 kilos, pareil.
200 kilos pour 7 mètres, même les bateaux de course sont rarement à ce poids-là. En fait, c'est vraiment très, très léger. Donc, c'est le bateau, donc, il est en Inegra basalte et carbone. Mais il y a des zones très robustes, très costauds, mais il y a d'autres zones où on évite d'y marcher, même. Parce qu'on n'a pas besoin de faire plus costaud que ça pour que ça tienne. Et on n'a pas besoin spécialement d'y marcher. Donc cette zone-là, on met juste ce qu'il faut. Et d'autres zones où par contre, on blinde au maximum pour que ça tienne. Et on n'a presque rien cassé sur toute l'expé.
Ok. Parce que je voyais dans le livre, vous parlez souvent de petites réparations, de trucs comme ça. Ça a l'air assez simple, dit dans le livre. Mais ça doit être une sacrée mission à chaque fois de réparer sur la glace.
Il faut dire qu'il a cassé la courroie pendant pas mal de fois, ton pilote automatique, c'est ça ?
Ah, le deuxième jour, après, ça a plus marché. Ça nous a vite appris à piloter un petit peu. Mais...
Oui, du moins, c'est... Bon, les réparations, on a l'habitude. Après, souvent, on fait des réparations juste provisoires. Et quand les conditions nous le permettent, mais on essaye de faire un peu le tour du bateau. Mais bon, ça fait partie. Je construis les bateaux, je les dessine, je les construis. Donc, pour les réparer, c'est pas un gros problème.
Ouais, mais il faut avoir le matériel du coup avec vous en permanence.
Ouais, on n'a pas. En fait, on a de la résine et de la fibre, du carbone, l'Inegra. Et avec ça, on fait à peu près tout. On peut réparer, on peut reconstruire n'importe quoi. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel différent, mais juste avec ça, et on bricole.
Et par rapport aux icebergs, vous avez envie de changer un peu de visu, ou c'est juste vous avez envie de marcher, vous avez envie de. C'était quoi votre envie par rapport au fait de marcher en même temps, de naviguer, de faire les deux, quoi ?
En fait, ce qui se passe, c'est que, du moins en Arctique, il y a des zones de glace, des zones d'eau, des zones de glace, des zones d'eau. Et on n'a pas le choix. C'est-à-dire, soit on a un bateau qui peut monter sur la glace, soit on ne va pas là où on est allé. Voilà, c'est pour tous les autres bateaux, ce n'est pas possible. Ou sinon, des très gros bateaux, des gros brises de glace, là, eux, ils peuvent passer en cassant, mais les voiliers, c'est impossible.
Alors, une petite pause musicale.
Hello.
Un tour. Alors cette dernière expédition, explique-nous un peu, parce que là, ça va au niveau des enfants du collège aussi. Tu vas peut-être montrer un film, il me semble, non?
Oui, jeudi, je vais leur montrer un film donc sur la dernière expédition qui était un, départ d'Alaska, avec donc le bateau dont on parlait, Babouchti. Donc départ d'Alaska, l'idée c'était d'aller au pôle Nord et de finir au Spitzberg, donc au nord de la Norvège. Et donc on est parti en espérant que ça allait bien le faire, mais les trois premières semaines, en fait, on n'a presque pas avancé. On a dû faire 30 000 en un mois.
30 000 ?
30 000 nautiques, 60 km.
D'accord. Ça, parce que 30 000, ça fait beaucoup hein, pour
oui,
nous.
Oui, oui.
60 km en un mois. OK.
Voilà, donc on a poussé, on a tout fait au palan quasiment.
Alors ça veut dire que là, vous mettez une.
Piolet, et ouais. on tire le bateau avec un palan. On avance, on repousse le piolet et on avance, comme ça, petit à petit. Il y a des endroits, le bateau, on était à 8 mètres au-dessus du niveau de l'eau, c'est-à-dire à monter sur les blocs de glace, à redescendre de l'autre côté avec le bateau en rappel. Donc ça a été très technique. Et le premier mois, voilà, on a perdu beaucoup, beaucoup de temps. Le deuxième mois, on a super bien avancé, mais on n'a pas réussi à reprendre assez d'avance pour, avec la nourriture qu'on avait à bord, pouvoir finir. Et donc au bout de deux mois, on s'est dit, là c'est mal parti. Quand on faisait notre calcul entre ce qui nous restait à faire et la nourriture qu'on avait, ça pouvait peut-être passer, mais c'est des endroits où ça peut-être passer, on peut pas jouer avec ça comme ça.
Ouais. Tu peux pas mettre la canne et te dire je vais pêcher quelque chose ou
non,
on fait pas de survie quoi.
T'as plus rien. Normalement il y avait, je dirais.
Ah oui.
Ce qu'il y a, c'est qu'avec le changement climatique, la glace a beaucoup changé. C'est-à-dire j'étais dans la même zone en 2011 et 2013. En 2011, on faisait des mesures, à chaque fois on a fait des mesures d'épaisseur de glace. En 2011,
pour des données scientifiques ?
Oui, pour des scientifiques. Et en 2011, la moyenne était entre 2 mètres et 2 mètres 50. En 2013, c'était 2 mètres et une grosse partie, c'était à moins d'un mètre. Déjà, donc là, en deux ans, bon, on peut se dire, bon, là, il y a eu un petit changement, c'est pas grave. C'est juste, voilà, on était presque au même endroit, mais pas tout à fait. Bon, on peut se dire,
c'est des glaces qui ne bougent pas pendant l'année, ça, ça.
Si, ça dérive, ça bouge.
Ça dérive, mais je veux dire, l'épaisseur reste normalement.
Non, elle réduit beaucoup pendant l'été et elle revient, mais c'est à la même période, à peu près au même endroit, mais bon, on se disait, bon, c'est peut-être juste. Il y avait eu pendant l'hiver, à un moment, une grosse cassure. Donc toutes les zones d'un mètre, ben, ça représentait cette cassure, ça, en tout cas c'est ce qu'on pensait. Et voilà, et là en 2018, ben, la moyenne des glaces, c'était plutôt 60 cm, et souvent même 40, 60 c'était déjà pas mal. On a eu quelques glaces à 1 mètre, 1 mètre 10, dans la zone où il y a quelques années c'était 4-5 mètres.
Ouais, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait sous la glace, il y a tout un écosystème qui se met en marche. Et donc, pour en revenir au début de la question, c'est qu'en fait, il n'y avait plus de cet écosystème, donc il y a une mesure.
Voilà, parce que les glaces épaisses, en fait, c'est des glaces qui ont plusieurs années. Mm-hmm. Souvent, pendant l'été, elles sont grises, noires, et même des fois avec les algues, elles sont vertes, rouges. Et dessous, il y a des algues qui poussent, il y a des poissons, il y a des crevettes, il y a du plancton, il y a tout ça qui vit dessous. Donc, il y a les phoques qui viennent manger les poissons, et il y a les ours qui viennent manger les phoques. Et là, cet été-là, la bumerlande. En 2018, on n'a rien vu de tout ça. Quelques phoques, mais très très peu. Des algues, des plaques de glace très propres et pas d'ours du tout pendant toute la partie centrale. On en a vu juste en arrivant vers la fin.
D'accord. Donc en fait, vous avez changé votre direction et vous avez fait une boucle et vous êtes revenu vers où alors
sur... Et on est revenu sur l'île de Banc, l'île qui est le plus à l'ouest de l'archipel canadien. Mais c'est assez marrant parce qu'une semaine avant ça, on comptait rejoindre le nord du Canada à Tuktoyaktuk. Mais les conditions météo étaient assez dures, donc il y avait une possibilité pour être en sécurité. En fait, la sécurité avec un petit bateau comme ça, c'est pas la pleine mer, c'est pas surtout pas la bordure de glace, du moins entre la mer et la glace, c'est vraiment rentrer sur les grandes plaques de glace. Comme ça, quand il y a du mauvais temps, on est sur un gros bateau. C'est un gros bateau, c'est la plaque de glace.
Attends, quand il y a du mauvais temps, tu places le bateau au sec, j'allais dire, et là tu mets une ancre, enfin tu speed quoi. Fin...
On s'amarre au bloc de glace.
D'accord.
Voilà, mais il faut aller très loin à l'intérieur de la plaque de glace. On s'est pris deux grosses tempêtes comme ça en bordure, et la deuxième, on a commencé la tempête à 6 000 à l'intérieur du moins 6 000 de la mer libre. Et à la fin de la tempête, tous les blocs étaient, toutes les plaques étaient brisées autour de nous. Et il était temps que ça s'arrête parce que sinon, on n'avait plus de glace assez costaud pour nous porter. Et ça serait devenu vraiment dangereux. Donc après, on a décidé de rentrer très très fort dans la glace.
Dangereux, excuse-moi. Dangereux dans le sens, les plaques qui viennent taper le bateau ?
Viennent, oui, et broyer le bateau. La moindre plaque, elle fait 10, 20, 100 tonnes. Donc ça a vite fait d'écraser un bateau.
Okay.
Donc là, on est passé, on a préféré rentrer dans les terres, mais on savait, à ce moment-là, on ne savait pas encore si l'île de Banque était habitée. Et sur une de mes cartes de météo, je vois marqué Saxe Harbor. Bon, je cherche un petit peu, j'envoie un message à un ami au Canada, je lui demande un petit peu de renseignements sur ce sur Saxe Harbor. Et je viens de chercher, il y aurait 120 habitants. Et
des Inuits.
Non, pas que des Inuits d'ailleurs.
Ouais.
120 habitants et il y a deux rotations d'avions par semaine. On dit ouais, super, tu peux quand même vérifier vraiment, appeler quelqu'un sur place parce que ça nous est déjà arrivé, nous en Arctique, qu'on nous dise allez à tel village là-haut, ouais. Vous allez voir, vous pourrez faire vos dernières courses et on arrive. Le truc s'est abandonné depuis 20 ans. Mais... Donc là, il a appelé la police en fait pour savoir. Et on a été super bien accueillis par la police à l'arrivée, qui nous a logés, nourris, et qui a stocké. Le bateau est stocké là-bas depuis 2 ans maintenant. Avec le Covid, je devais retourner cette année pour aller le chercher, mais je n'ai pas pu.
D'accord. Ah oui, d'un coup, il y a l'humanité, quoi. On est perdu dans le grand blanc, et d'un coup, les gens sont là, et il y a une joie d'accueillir quelqu'un. Comment ça se passe ?
Ouais, on a eu un super accueil dans ce village, et ça faisait 83 jours qu'on était sur la banquise. Donc en mer, au milieu de la glace, mais sans voir la terre, sans voir personne. Et, c'était super. C'était une super expédition. En plus, Eric, on était trois, donc Eric, je le connaissais bien, vu qu'on avait fait le passage du Nord-Ouest ensemble et pas mal de trucs ensemble. Mais Vincent, je l'ai connu 4 mois avant le départ. On s'était vu, je pense, 15 jours en tout, le jour du départ. Et Eric et Vincent se sont rencontrés pour la première fois la veille du départ. Parce que Eric est rentré d'un tour du monde à vélo et Vincent a guidé une expédition avec des touristes au Spitzberg. Berg. Donc voilà, ils ne pouvaient pas être là avant, donc ils se sont rencontrés la veille du départ.
D'accord. Belle aventure.
Et malgré ça, ça a été, il n'y a eu jamais aucun accrochage entre nous. On est parti sans se connaître et on est rentré super potes.
Oula, ça ne se voit pas à la radio, mais Seb a toujours un sourire. Je ne sais pas si c'est une question de voile ou « Salut les gars !» Ouais, c'est extraordinaire. Moi, j'ai un peu surpris, c'est quand on parle de Grand Nord, on se dit « Bon, là, c'était à quelle période ? Au mois de mars, avril ?»
Non, c'est beaucoup plus tard. Hein,
Parce que ça vous fait des journées qui sont super longues.
Juin, juillet, août.
Donc là, il n'y a pas de nuit ?
Moi, même fin septembre. La fin de l'expédition, on avait de la nuit. On avait 4-5 heures de nuit.
Donc ça veut dire que tu peux voir les glaces en permanence, tu peux... Enfin, je veux dire, quand tu dis on s'arrête pour dormir, on se pose et on a quand même un visu, quoi.
Le dernier jour, on s'est arrêté, on n'y voyait plus du tout.
Ah, d'accord, c'est plus inquiétant. Ouais.
Et la dernière nuit, on s'est arrêté juste 3 heures et c'était assez bizarre parce qu'on venait juste de croiser un cadavre d'ours polaire qui n'était pas très gros. Qui ouais. S'était fait tuer par un gros, il y avait des énormes empreintes.
Ah oui.
Et on voit ça juste avant de s'arrêter. Pendant la journée, on avait vu énormément d'empreintes dans tous les sens. Alors, on était là, bon.
Bah, y a celui qui n'avait pas maigri qu'on pouvait mettre devant.
Mais il a toujours été devant en plus. C'est pour ça qu'il n'a pas maigri en fait. Il a pris du muscle parce que ça a été notre mulet.
D'accord. Ouais, j'ai vu que vous avez fait pas mal les chiens de traîneau. Vous aviez une carabine, quelque chose ?
Oui, on avait un fusil qui était plus prévu pour. Pour la chasse aux phoques, parce que justement, si on avait pu chasser des phoques au milieu d'expédition, on aurait pu finir notre expédition. Mais malheureusement, au large, il n'y avait plus aucun phoque, contrairement aux expéditions précédentes où on avait beaucoup de phoques, même au centre de l'océan Arctique.
Bien, ben merci. Alors, avec Noé, on est allé faire un tour dans une grange là-bas. On s'est arrêté dans un garage et on a vu du contreplaqué. De l'aggloméré de basse qualité, hein, pour nous, on s'est dit. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Noé, tu as vu, toi aussi, non ?
Ouais, c'est vrai qu'il y a... Il y a le chantier bateau, finalement, dans un petit garage, mais ça avait l'air propre comme chantier.
Oui, il était dans un petit garage, mais il passe dans une grange à partir de demain. Beaucoup plus grande. Et c'est un petit bateau que j'ai dessiné au printemps, là, pendant le confinement. J'en ai profité pour une personne, un artiste qui veut aller au Groenland pour rencontrer des Groenlandais, faire de la musique avec eux, inventer une histoire à raconter aussi au retour. Et donc là, je lui construis un petit bateau de 6 mètres, un voilier, et pareil pour aller naviguer à la voile.
Ouais, ça faisait un beau projet aussi pour lui là. Ouais. Du coup, ça fait que tu restes longtemps à terre là quand même.
Oui, je reste maintenant là depuis quelques années, je reste pas mal à terre quand même. Déjà, j'ai une grande fille, donc ça pousse un peu à rester à terre. Et puis le temps de préparer des expéditions comme la voie arctique, là je repars l'été prochain, j'espère, donc de l'île de Banks, là où il y a le bateau, pour passer au nord de toutes les îles canadiennes et au nord du Groenland. Donc ça demande du temps de préparation, et donc pendant ce temps-là, autant construire des bateaux pour d'autres.
Et moi j'ai entendu parler, ils voulaient construire un canal là-bas, non ? Dans le nord, pour faire passer des cargos, pour rejoindre l'Atlantique à l'Arctique ou...
Non, du moins il y a des passages, en fait, le passage du nord-ouest, le passage du nord-est, donc passage du nord-ouest qui est au nord du Canada, et le passage du nord-est qui est au nord de la Russie, mais c'est pas vraiment des canaux, c'est des endroits où les bateaux peuvent passer en fonction de la glace. Donc côté canadien, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de rochers, il n'y a pas beaucoup de fond, c'est pas balisé, et les Canadiens n'ont pas des bateaux, des brise-glaces vraiment puissants pour pouvoir faire un passage toute l'année. Donc ça serait étonnant que ça devienne une vraie voie maritime. Par contre, passage du nord-est, les Russes sont tout à fait capables de faire passer n'importe quel bateau derrière eux, et parce qu'ils ont des super brise-glaces. Et question fond, c'est beaucoup plus facile à gérer parce que c'est de la pente douce, il n'y a pas trop de rochers, il n'y a pas trop de haut fond. Donc ça serait plutôt, s'il y a un passage qui se fait, c'est plutôt de ce côté-là, ou passer par le pôle nord, ce que j'ai voulu faire moi avec mon voilier, parce que maintenant les brise-glaces, la glace est de moins en moins épaisse, et les brise-glaces passent de plus en plus facilement par le pôle. Oui, les brise-glaces montent tous les ans au pôle sans trop de problèmes. Ils sont même capables d'y monter en hiver.
Il n'y a pas du tout de bande de terre sur le pôle nord. Enfin, moi, je voyais le Groenland quand même.
C'est un océan, c'est l'océan Arctique. Okay. Et c'est entouré de terre avec le Groenland, le nord de la Laponie, et la Russie, le Canada et Alaska. Mais il n'y a pas de terre au centre.
Donc, si vous avez des globes, oui, c'est tout blanc, on peut faire des traits dessus maintenant. Où ils passent les Russes, c'est ça.
Ouais, ils sont passés à peu près partout là-haut.
au-dessus, partout.
Ouais. La banquise, elle dérive très très vite.
Donc ils peuvent pas prendre la même.
Non, non, non.
Par rapport justement à la biodiversité et tout ça.
Je pense pas que ça change grand-chose. Hein. En fait, quand ils passent, ça se resserre tout de suite, et s'il fait froid, ça se recolle. S'il fait pas froid, ça fait une cassure, mais qui est infime par rapport à la surface de la glace. C'est un peu comme une trace de ski au milieu d'une montagne seule, ça fait pas grand-chose.
Moi, j'avais une question. Qu'est-ce qui t'attire dans l'Arctique, vraiment ? Justement, ouais, est-ce que c'est la mouesse technique, ou est-ce que tu te sens directement bien là-bas ? Je sais pas. Par exemple, je suis en galère avec ma voiture, je dois la pousser, et puis je prends du courage. Il y en a, ils ont fait ça pendant 3 mois.
Non, en fait, je crois que je suis maso. Non, non, c'est pas ça. Non, du moins, mais vas-y, tu vas voir. Tu vas comprendre tout de suite. Ouais, non, c'est des paysages qui sont tellement magnifiques. Tellement... Après, l'océan Arctique, là, j'y étais 3 fois. J'y ai passé pas mal de mois maintenant sur l'océan. C'est beau, c'est magnifique, mais j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais voir. C'est pas l'endroit qui me plaît le plus. Mais le Groenland, par exemple, ou même le Nord Canada... Ellesmere ou des îles comme ça, c'est tellement magnifique, c'est tellement grandiose. Et il y a la mer au milieu des Alpes. Donc tu navigues, tu fais du ski, tu grimpes, voilà, c'est... Alors, ça fait envie ?
Ah, c'est vendu, là.
Tu reposes la question ou pas ? Non, c'est vraiment... Ouais, c'est... pour les gens qui aiment la nature, c'est vraiment un paradis. Et puis de passer des jours et des jours sans voir aucune trace humaine. À part des fois un avion, la trace humaine la plus proche qu'on voit, c'est l'avion qui passe au-dessus une fois de temps en temps, mais c'est tout. Sinon, on n'en voit pas du tout.
Bien, eh bien je pense là à l'interview qu'on a eue avec Vincent Munier aussi, naturaliste, photographe. Et c'est vrai que ça nous donne envie de partir. C'est un peu l'objectif de l'émission, Annette. Hein, puisqu'on a été cloisonnés. Alors là, d'un coup, c'est le grand décloisonnement. En tout cas, merci à tous. Est-ce que vous avez encore quelques petites questions? Parce que nous, nous n'avons qu'une heure.
C'était moins par rapport à l'expédition, plus par rapport à la voile. Si demain, on a envie de s'y mettre, comment on procède? Chacun son chemin aussi, j'imagine.
Oui, chacun son chemin. Après, ça dépend. C'est apprendre à faire de la voile comme ça, décider de partir avec son bateau ou avoir envie de faire une traversée de l'Atlantique, par exemple. C'est différents trucs.
Dans l'idée pour partir en bateau après, même en famille, justement, que ce soit...
Oui, ou aller aux Canaries à l'automne et faire du bateau stop, par exemple, ça marche bien. Okay. C'est un moyen simple et normalement on n'attend pas trop longtemps pour trouver un bateau.
Okay. Non, je veux pas le bateau tout de suite, justement. D'abord le savoir-faire, la connaissance et après.
Mais c'est bien d'aller naviguer sur le bateau des autres. Hein. Ouais. Ça coûte pas cher, on apprend, on essaye plusieurs bateaux différents, hein, plusieurs styles. Et, ouais, c'est le meilleur moyen d'apprendre, je trouve. Pour traverser donc de vers les Antilles, c'est à l'automne, donc novembre, décembre, janvier même, ça va. Même février, mais il y en a un petit peu moins. Souvent c'est autour de décembre là, où il y a le plus de bateaux.
On a toujours rêvé quand on se balade là. On va pas très loin, hein, on va à 7 hein, ou des choses comme ça. Ouais. On voit tellement, même le bateau de José Bové là, qui est là, énorme, tu dis, mais c'est pas possible, les gars. Ils dorment ces bateaux, il y a plein de bateaux qui dorment là.
Ouais, mais nous, on a eu la chance justement d'un bateau qui dormait au Québec, un bateau qu'on connaissait un peu. Et on a demandé à la famille qui avait ce bateau s'ils étaient prêts à nous prêter le bateau. Et on a eu le bateau pendant 5 ans, dont un an et demi au Groenland.
Ah, c'est pas les meilleures conditions pour l'entretenir, non?
On leur a rendu un super bateau par rapport à ce qu'ils avaient, qu'ils nous avaient passé. Mais voilà, il y a des gens qui prêtent leur bateau, ça arrive. Mmh. Et ça se trouve des bateaux à donner aussi.
Ah ouais. Ouais. Parce qu'il y a quand même, on en voit, il y a des parkings de bateaux, là, il y en a des stocks, quoi.
Oui, là, je crois que la moyenne annuelle de navigation par bateau, c'est moins de 3 jours.
Ah, d'accord.
Voilà. Et il y a des bateaux qui sont toute l'année à naviguer. Donc, il y en a beaucoup qui naviguent pas du tout. Une grosse majorité. Mmh. Donc, faut pas hésiter quand il y a un bateau qui traîne, demander. Vous en faites quoi?
Comme ça, ils payent pas le port pendant un certain temps. Voilà. Ok. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Seb, de ta venue dans cette petite éco-hutte.
Ah bah oui, moi merci, je suis...
Ah bah tu vois, t'es déjà parti, tu vois, tu disais que t'avais du mal à s'en mer, mais t'es déjà un peu parti. Il y a moins de mal de mer sous la glace, je sais pas. Mais
sur la glace, et en fait en Arctique, contrairement à ce qu'on pense, on a souvent du temps assez calme.
D'accord.
Quand c'est mauvais, c'est assez dur, mais il y a aussi, la majorité du temps, c'est plutôt calme.
Il y a quand même des bruits bizarres, non, j'imagine. Toutes les glaces, le pack, tout ça doit faire des... Ça doit grincer un peu, non?
La glace d'été n'est pas très bruyante.
Ah.
Parce qu'elle est un peu molle, donc même quand ça tape
le bloc... Ça s'en cache.
Ouais. L'hiver, par contre, il y a des bons grincements, ouais.
Ouais, d'accord. Bon, alors si on voit passer un char à voile avec... ici, il y a un petit peu de neige, peut-être qu'il y a des kiteurs. Voilà, Vassieux, nouveau port de plaisance. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci.
On essaiera d'avoir Seb, l'autre Seb, parce que c'est vrai que son projet, on veut le voir avancer, c'est magnifique.
Ouais, je pense que vous pourrez voir le bateau aussi à la sortie, et d'ici là, bienvenue.
Merci.
Crois-moi, crois-moi pas, quelque part en Alaska, y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il rêve aux États en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner les ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. S'ennuie, il regarde son poil qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe. Il imagine sa blonde faire un show. Faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Ouh.